La première,
9h-10h,
l'histoire continue,
Bertrand N., Hélène Maquet.
Comme je m'y étais engagé, formellement devant vous, la Belgique ne signera pas le CETA le 18 octobre.
Il est un petit peuple qui résiste encore et qui bloque 500 millions d'Européens et tout le Canada. Paul Magnette, physiquement, c'est un petit peu Emmanuel Macron, mais un Macron destroy. Mal rasé, socialiste, une sorte de Che Guevalon. Hein.
Seul contre tous, David contre Goliath, Astérix contre l'Empire romain, le pot de fer contre le pot de terre, les métaphores de combat inégal ne manquent pas.
Toutes ces métaphores ont été utilisées pour qualifier le bras de fer entre la Wallonie et l'Union européenne à propos du CETA, le traité commercial avec le Canada.
En 2016, deux semaines d'intenses négociations où la Wallonie s'est fait connaître dans le monde entier et où son ministre-président Paul Magnette s'est rendu célèbre.
Mais le combat contre le CETA est aussi le symptôme de la vitalité démocratique wallonne, d'une société civile organisée, d'un parlement et des élus qui avaient réussi à relayer les inquiétudes de la population.
Le symptôme d'une certaine fierté wallonne aussi, même si le mot est rarement utilisé, une fierté fugace, fugace comme ce moment CETA qui semble si lointain déjà au Parlement de Wallonie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue.
Et on replonge donc en 2015 et 2016 pour revisiter ce moment si particulier et assez original de la vie politique belge, l'opposition wallonne au CETA. Et d'abord, en fait, c'est une erreur de parler d'opposition wallonne, puisque Bruxelles et la Fédération Wallonie-Bruxelles se sont aussi opposés à ce traité commercial avec le Canada, mais on a retenu surtout l'opposition wallonne, car c'est vrai, tout s'est passé à Namur.
Alors ce qui est le plus marquant dans cet épisode, c'est la position unique de la Wallonie. On se retrouve seul contre tous. C'est aussi le soutien populaire, très large, aux élus sur un sujet très technique, juridique, qui est un traité commercial. Un soutien populaire qui a depuis largement déserté les travées du Parlement de Wallonie, où c'est la défiance qui règne désormais.
Oui, et le moment CETA est interprété de manière très diverse. Certains y voient un réflexe protectionniste, un repli sur soi, comme le fut le Brexit. D'autres, un réflexe populiste, comme le fut l'élection de Trump. D'autres encore, un vrai sursaut démocratique. Alors, il y a peut-être les trois à la fois. En tout cas, dans cette émission, on va prendre le recul pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé à l'époque.
Et puis, bien sûr, il y a la question de fond posée par le CETA, celle des traités commerciaux internationaux. La Wallonie a-t-elle changé la manière dont l'Union européenne négocie ses traités? Les Wallons ont-ils vraiment obtenu quelque chose? Que reste-t-il aujourd'hui de cette opposition? On en parle avec un des acteurs clés de ce dossier aujourd'hui, Arnaud Zaccari. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du Centre national de coopération au développement, le CNCD 11-11-11. C'est vous le premier qui avez attiré l'attention des parlementaires wallons sur ces enjeux du CETA?
Ben oui, parce qu'à l'époque, il faut se rappeler que la Commission européenne présentait à la fois le traité transatlantique avec le projet de traité transatlantique avec les États-Unis et le CETA, qui était négocié parallèlement, comme le nouveau modèle des accords de libre-échange de nouvelle génération, qui se focalisait non plus sur les barrières douanières, puisqu'elles étaient déjà quasi nulles, mais sur les barrières non tarifaires, c'est-à-dire les normes qui pouvaient intégrer des normes d'intérêt public. Et donc évidemment, à partir du moment où on parle d'un nouveau modèle, ça nous a mis tout de suite la puce à l'oreille et on a tout de suite tiré la sonnette d'alarme. C'était l'occasion d'adopter un modèle le plus ambitieux possible en matière de normes sociales et environnementales. Et malheureusement, pour la première fois, l'Union européenne proposait un traité avec un tribunal d'arbitrage privé qui permet aux multinationales d'attaquer les États, même quand ils adoptent des législations sociales et environnementales. Donc ça a attiré doublement notre attention, d'où le fameux communiqué.
Alors on se replonge dans nos archives, on est en 2016 à Namur.
Nous sommes le vendredi 21 octobre 2016. Dans les jardins d'une grande maison bourgeoise de Namur, une femme fait les 100 pas. Chrystia Freeland est canadienne. Elle est ministre et elle est en train de négocier un des traités commerciaux les plus importants de sa carrière. Un des plus importants pour son pays, un des plus importants pour l'Europe. Des milliards sont en jeu, plus de 500 millions de consommateurs sont concernés, des milliers d'entreprises. Et si Chrystia Freeland, habituée des capitales mondiales, se retrouve à Namur, c'est que depuis des mois, la Wallonie refuse de signer le CETA, l'accord économique et commercial global avec le Canada.
Voici l'actu du jour à votre réveil avec les titres de votre journal. La Wallonie, seule contre tous dans le dossier CETA, elle ne veut pas se laisser enfermer dans un calendrier et pointe l'intransigeance de l'Union européenne, moins celle du Canada.
Chrystia Freeland débarque d'Ottawa avec la certitude de convaincre la petite région de Belgique, la seule qui bloque encore la signature d'un traité entre le Canada et l'Europe, prévu en grande pompe, 6 jours plus tard. Mais elle déchante très vite. Les Wallons lui présentent des objections de principe. Elle comprend qu'elle n'obtiendra rien. Chrystia Freeland quitte la réunion et se rend en larmes devant les caméras de télévision.
Il semble évident pour moi, pour le Canada, que l'Union européenne n'est pas capable maintenant d'avoir un accord international, même avec un pays qui a des valeurs si européennes comme le Canada. Le Canada est déçu. Moi, personnellement, je suis très déçue.
Les larmes de Chrystia Freeland font le tour de l'Europe et du Canada. Elles mettent une pression terrible sur la Wallonie. La ministre avouera quelques années plus tard devant des journalistes que ces larmes étaient fausses. « Nous voulions que les Wallons se sentent coupables », a-t-elle déclaré. Et ça a fonctionné. La Wallonie finira par signer le CETA. Retour sur un moment politique hors norme. Retour un an plus tôt. En novembre 2015, plusieurs centaines de manifestants arpentent le rond-point Schuman à Bruxelles. Ils protestent contre la négociation par la Commission européenne du TTIP, un traité commercial avec les États-Unis, et du CETA, un traité avec le Canada. Ces traités sont particuliers, ils sont dits de nouvelle génération. En plus des droits de douane, ils visent à supprimer toutes les entraves au commerce, les normes sociales, environnementales ou de santé publique.
Le principe, c'est le plus dérégulé sera celui qui commandera. C'est-à-dire, toute la lutte qu'on a eue, par exemple, pour réguler les questions d'environnement, pour lutter contre le changement climatique, pour avoir des salaires dignes, une négociation laborale où les travailleurs aient la possibilité d'avoir une dignité. Bon, tout ça, si aux États-Unis, ce n'est pas fait, parce que ce n'est pas fait, c'est plus dérégulé, tout d'un coup, on perd tout ce qu'on a conquis démocratiquement pendant des dizaines et des dizaines d'années.
Drapeau bleu, rouge, vert, une manifestation comme ça, le rond-point Schuman envoie défiler des centaines par an. Parmi les manifestants, des syndicalistes d'Espagne, d'Italie et bien sûr de Belgique. Avec le TTIP, ils craignent la dérégulation du commerce, un grand classique, mais l'un des manifestants soulève un autre problème, méconnu jusqu'alors.
Les tribunaux arbitraux privés, secrets, permettront aux multinationales d'attaquer des États, soit parce qu'ils ont pris une législation qui met en cause leurs bénéfices, soit parce que même ils seraient en train de discuter d'une loi. Le TTIP, dont il faut savoir qu'il est discuté dans le plus grand secret, même les parlementaires européens n'ont pas le droit d'avoir les textes.
Les tribunaux d'arbitrage, un mécanisme qui permet aux firmes transnationales d'attaquer un État devant un tribunal d'exception si elles estiment qu'une décision politique a violé les règles du traité et lésé ses intérêts économiques. De quoi potentiellement reléguer au second plan les parlements nationaux et les juges nationaux. Dans plusieurs parlements en Europe, ces inquiétudes sont relayées en Autriche, en Allemagne et en Wallonie. Et oui, dans le système institutionnel belge, les entités fédérées doivent ratifier ce genre de traité. Les députés wallons posent beaucoup de questions, mais ne trouvent pas beaucoup de réponses. Ils votent une première motion en avril 2015. Ils n'accepteront que le Premier ministre Charles Michel signe le traité que si les conditions changent radicalement. Mais la Commission continue de négocier dans le plus grand secret. En septembre 2016, les manifestants reviennent, mais cette fois, ils sont plus de 10 000.
Ce sont des traités qui redistribuent les cartes, mais qui vont augmenter les inégalités, donner encore plus de pouvoir à des acteurs qui n'en ont pas besoin. Ce dont on a besoin, c'est de renforcer au contraire les normes sociales, environnementales et sanitaires dans l'intérêt général.
La rue défile, mais sans faire plier la Commission. Par contre, les discussions avec les Américains patinent et l'élection de Donald Trump en novembre va enterrer le projet. En revanche, la Commission européenne tient son accord avec le Canada. Le CETA sera donc le premier traité de nouvelle génération. Les 28 États membres de l'Union et la Commission s'engagent donc pour une signature officielle un mois plus tard, le 27 octobre. Sauf qu'un petit grain de sable va coincer toute la mécanique politique européenne. En Belgique, les francophones vont dire non. Le 14 octobre, les députés calent.
Les francophones font figure d'irréductibles gaulois comme dans la BD Astérix. Hier, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis son veto au CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. La Belgique devait le signer fin du mois, mais c'est plus que compromis puisqu'il faut l'accord de tous les parlements. Et le Parlement wallon en rediscutera lui aujourd'hui et demain. La réponse sera certainement non pour le président du Parlement wallon, André-Antoine. Dire oui au CETA, c'est tuer la démocratie wallonne.
Avant, le gouvernement propose, les parlements disposent, et bien aujourd'hui, les multinationales s'interposent. Vous voulez un exemple pour nos agriculteurs? On va importer des milliers de tonnes de bœuf, de porc, alors même que nous sommes en surproduction, alors même que les normes ne sont pas les mêmes au Canada qu'en Union européenne. Je rappelle quand même que le commerce extérieur, l'agriculture, les travailleurs sociaux, c'est aussi de la compétence de la Wallonie.
Le président du Parlement de Wallonie, André-Antoine, fait partie du CDH. En majorité avec le PS, il relaye les inquiétudes portées également par Écolo et le PTB dans l'opposition. Un front très large, seul le MR, lui aussi dans l'opposition à Namur, se montre favorable au CETA. Alors que le président du Conseil, Donald Tusk, lâche un ultimatum à la Wallonie, André-Antoine sait que ce nom wallon restera comme un jour historique pour son Parlement. Les caméras de télévision d'Europe et du Canada sont là. Paul Magnette, le ministre-président, le sait aussi. Il prépare un discours qui va marquer les esprits.
Nous avons des organisations syndicales, des mutualités, des associations dans tous les secteurs extrêmement actives, dynamiques, vigilantes, mobilisées, qui ont étudié ce texte avec beaucoup de sérieux, qui ont consulté les meilleurs experts, qui ont remis des avis et qui ont alimenté nos propres travaux. Et cette vitalité démocratique de notre propre population, nous ne pouvons pas en faire fi, nous ne pouvons pas en balayer sous le balayer du revers de la main sous prétexte que nous risquons d'être isolés. Être isolé de sa propre population, être isolé de ses propres citoyens, à une époque au début du XXIe siècle où la démocratie est déjà tellement profondément en crise, ce serait au moins aussi grave que d'être diplomatiquement isolé. Et nous devons faire en sorte que ces liens très forts que nous avons soient préservés. C'est un premier élément du débat.
En quelques mots, Paul Magnette va devenir la voix et le visage du combat contre le CETA, après avoir souligné la vaste coalition qui s'est créée en Wallonie contre le traité. Paul Magnette fixe les enjeux.
Si nous voulons qu'il y ait de vraies règles en matière des droits de l'homme, du développement durable, il faut faire un travail de négociation pour obtenir un premier traité qui fixe les standards aussi haut que cela deviendra la norme européenne. C'est ça l'enjeu du CETA. C'est ça l'enjeu fondamental du CETA. Et c'est pour ça que nous devons dire non pour négocier. Non pas non pour tous aborder, donner un coup de pied dans la fourmilière, mais non pour créer un rapport de force qui nous permette d'obtenir plus de normes sociales, plus de normes environnementales, plus de clauses de respect des services publics et qui nous permette demain de dire voilà le standard européen. Et quand l'Union européenne ouvrira une négociation avec le Japon, avec les États-Unis ou avec n'importe qui d'autre, c'est à partir de ce standard-là que l'on discutera. C'est ça l'enjeu fondamental. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces débats sont aussi forts.
Et puis, la sentence attendue tombe. Le traité est bloqué.
Le Parlement wallon a réexaminé la déclaration interprétative. Mais aujourd'hui, à l'analyse, ceci ne donne pas de garantie suffisante. Et donc, comme je m'y étais engagé, formellement devant vous, je ne donnerai pas les pleins pouvoirs au gouvernement fédéral et la Belgique ne signera pas le CETA le 18 octobre. Je ne prends pas ceci comme un enterrement, je ne prends pas ceci comme un veto sans condition, je prends ceci comme une demande de réouvrir de négociations pour que de légitimes attentes d'une société civile organisée, transparente, qui ont été exprimées avec force, puissent être entendues par les dirigeants européens et pour que nous puissions ensemble contribuer non seulement à notre prospérité, mais aussi à reconstruire la confiance politique entre les citoyens et leurs élus. Je vous remercie de votre attention.
Les extraits de ce discours vont tourner partout en Europe. Paul Magnette prend ce jour-là une dimension nouvelle, en particulier en France, où il incarne, encore aujourd'hui, une gauche de résistance à la mondialisation. À Paris, le 15 octobre.
Sur France Inter.
Charline Van den Acker, vous évoquez l'accord de libre-échange entre le Canada et la France. Tous les pays sont prêts à le signer, mais...
Mais un village résiste encore, hein ? Alors, c'est qui les vrais Gaulois ?
Alors, ce sont les Wallons qui bloquent le CETA, à peine plus de 3,5 millions d'habitants.
Oh, ouais, du calme, pas de quoi. Il est un petit peuple qui résiste encore et qui bloque 500 millions d'Européens et tout le Canada, hein ? Je peux vous dire que maintenant, la grande puissance transatlantique, là, hein, elle s'est placée la Wallonie sur la carte, hein, fieu. Paul Magnette, physiquement, c'est un petit peu Emmanuel Macron, mais un Macron destroy. Mal rasé, socialiste, une sorte de Che Guevallon, hein. Montebourg à côté, c'est Nadine de Rothschild. D'ailleurs, les zadistes ont immédiatement demandé que Notre-Dame-des-Landes soit rattachée à la Wallonie et le Luxembourg a prévu de faire fortifier sa frontière avec la Belgique pour protéger ses banques.
Les adversaires de Paul Magnette diront que l'objectif de sa démarche était une publicité facile sur le dos de la Commission européenne et du commerce mondial. Reste que le soir même, Paul Magnette s'entretient avec le président français, François Hollande. Il reçoit des coups de fil des dirigeants du monde entier. La Wallonie dit non et devient un non sur la carte. Les adversaires du CETA sont ravis. Les partisans, eux, évoquent une sorte de populisme. Le patron des patrons wallons, Vincent Reuter, par exemple.
Signer un traité multilatéral est un acte de démocratie. Bloquer toute l'Europe, parce que c'est ça qui risque de se produire, c'est un acte de démocratie, ça. Quel fondement est-ce qu'on a pour bloquer l'Europe? Alors, est-ce qu'on a affaire à 26 ou 27...
On a un parlement légitimement élu.
Bien entendu, ouais. Mais moi, je suis un électeur. J'ai aussi des comptes à demander. Hein.
Ouais.
Et en tout cas, le mandat que j'accorde à un parlement n'est pas celui de ridiculiser ma région et mon pays.
Parce que c'est ça qui va se passer sur le monde,
bien
monde
bien
en
entendu.
Tout cas en Europe.
La Wallonie va être la risée de l'Europe, c'est clair, ça.
Le CETA divise une partie du monde patronal et l'EMR considère que la Wallonie se fait du tort et fait du tort à l'Europe. Mais le CETA mobilise contre lui une très large coalition qui va des classes moyennes aux syndicats en passant par la Fédération Wallonne de l'agriculture. C'est sans doute la clé de ce que l'on a appelé le moment CETA. Un moment où s'est créée une large alliance d'organisations derrière le monde politique. On pourrait presque parler d'une communion. C'est la seule fois, de mémoire, de Wallonne et de Wallon qu'on a manifesté pour remercier les élus.
Le CETA, c'est non. Arrêtez vos menaces sur nos élus politiques et se signer la population. Ben oui, je veux dire qu'aujourd'hui, moi, je suis content des élus politiques. Cependant, pendant des années, je les ai beaucoup critiqués. Mais quand ils font un travail positif, il faut savoir le reconnaître.
On a peine à le croire, mais il est arrivé un moment, pas si lointain, où des tracteurs ont débarqué à Namur pour protéger le Parlement wallon des pressions du capitalisme mondial. Une sorte de protectionnisme démocratique unique dans l'histoire wallonne.
On a pu entendre que l'exportation pouvait être une bonne chose avec le Canada. La majorité des agriculteurs n'en veulent pas. Ils savent que le Canada est un pays de 35 millions d'habitants, trois fois la Belgique, sur une surface de 300 fois la Belgique.
Comment expliquez-vous qu'au niveau politique, il n'y ait finalement qu'en Wallonie que ce combat anti-CETA ait réussi à aller jusque-là?
On a le seul parlement qui a entendu une masse d'experts, des docteurs en économie, des gens de partout. On a les seuls parlementaires qui ont vraiment fait leur travail de parlementaire pour lequel ils sont payés. Voilà la raison. Les autres ont signé parce que simplement ils suivent cette logique libérale et mondialiste. Le CETA, comme il est là, sans protection, on n'en veut pas, on n'en voudra jamais.
Cette pression populaire portée par la société civile organisée, ce sentiment de quasi-communion va pousser les politiques à tenir le plus longtemps possible dans leur bras de fer avec la Commission européenne. L'autre explication est plus terre à terre. Il faut se souvenir du contexte très particulier de la politique belge de l'époque. Le MR est le seul parti francophone du gouvernement fédéral. Pour le PS et le CDH, l'occasion est belle de mettre, depuis la région, le Premier ministre belge Charles Michel en difficulté. Lui et le ministre des Affaires étrangères, également libéral, Didier Reynders. Contraint et forcé, Didier Reynders rencontre les élus wallons pour tenter de trouver un accord. Il reste une semaine avant la date prévue pour la signature du traité.
Ça fait des heures et des heures que l'on a tout fait pour mettre tout le monde dans une situation confortable et faire en sorte qu'on puisse vraiment aboutir à une réponse à des préoccupations qui sont souvent légitimes, on le dit depuis le début. Ce sont des préoccupations qui ont été exprimées au niveau européen aussi. Et donc on tente de donner une réponse, mais je crois qu'on l'a fait ces deux derniers jours en mettant l'ensemble des éléments de réponse sur la table. Et donc on attend simplement la confirmation que l'on peut aussi avancer au niveau européen.
Petit à petit, les Wallons comprennent qu'ils ne pourront pas changer le traité. Par contre, ils tentent de l'améliorer via ce qu'on appelle une déclaration interprétative qui précise ou limite certains points, en particulier les mécanismes d'arbitrage ou les secteurs soumis à la dérégulation. Le week-end passe. Le 24 octobre, il reste 3 jours avant la signature prévue du traité. La semaine commence par un deuxième ultimatum envoyé par le président du Conseil, Donald Tusk. La réponse wallonne est toujours la même.
Chaque fois qu'on essaye de poser des ultimatums, ça rend impossible une discussion sereine et ça rend impossible un débat démocratique. Donc il ne faut pas d'ultimatum et nous ne déciderons jamais rien sous l'ultimatum et sous la pression.
Le Premier ministre Charles Michel est furieux. Il considère que l'opposition wallonne est largement dans un jeu politique destiné à lui nuire. En attendant, il est obligé de transmettre la réponse officielle de la Belgique, et c'est toujours non.
On nous a demandé de donner une réponse claire aujourd'hui. J'ai veillé à ce que nous puissions donner une réponse claire. La réponse claire à ce stade, c'est non. Je vais donc communiquer cette réponse claire cet après-midi à Donald Tusk, et j'imagine que Donald Tusk et peut-être d'autres responsables européens auront probablement, dans les heures qui viennent, des concertations avec le Canada.
La Belgique est divisée. Les francophones sont contre, mais la Flandre, avec ses entreprises axées sur l'exportation, est-elle favorable ? Le ministre-président flamand, Geert Bourgeois de la NVA, parle de honte.
C'est une honte pour tout le monde, c'est une honte pour nous, pour la Wallonie, pour la Belgique, pour l'Europe, pour le Canada, pour tout le monde, oui, qu'on ne peut pas conclure un accord qui est très démocrate, qui est très bon, qui va créer des jobs, etc. C'est une honte.
Les heures passent, les nuits sont courtes, les documents juridiques s'échangent et la pression augmente sur les Wallons. Arrive le jeudi 27 octobre. Jour prévu de la signature du traité, la cérémonie avec le Canada est reportée. Le symbole est fort, mais les Wallons sont pourtant sur le point d'atterrir en coulisses. Ils négocient une suspension du très décrié mécanisme d'arbitrage et une déclaration interprétative qui, disent-ils, protégera beaucoup mieux les citoyens à l'avenir. Le jeudi, en fin de journée, la saga CETA se termine. La Wallonie accepte enfin que Charles Michel signe le traité. Une forêt de micros et de caméras attend Paul Magnette, alias Wallonix, selon le journal Libération, de pied ferme, rue de la Loi.
Je pense que c'est très important, non seulement pour la Wallonie, mais si on a pris un peu de temps et... Je suis désolé pour tous les autres Européens que nous avons fait attendre et pour nos partenaires canadiens, mais si on a pris un peu de temps, c'est parce que je pense que ce qu'on a pu obtenir ici est important non seulement pour les Wallons, mais pour l'ensemble des Européens. C'est vraiment une question fondamentale, la question de savoir de quel monde voulons-nous. Est-ce qu'on veut un monde avec des règles ou un monde sans règles ? Nous voulons réguler ce marché, nous voulons pouvoir protéger les citoyens. C'est pour ça que nous nous sommes battus et je crois que ça en valait la peine puisque nous avons été entendus.
Cet accord complexe fait l'objet d'une intense bataille de communication. Les avancées réclamées par les Wallons ne sont pas évidentes. Pourtant, PS et CDH vendent un nouveau CETA. Ce n'est évidemment pas l'avis des autres partis. Le Premier ministre libéral Charles Michel déclare devant la Chambre que le CETA n'a pas changé.
Nous n'avons pas touché au traité. Le traité est resté en l'état. Il n'y a pas une virgule qui a été touchée par rapport au traité.
Dans l'opposition wallonne, PTB et Écolo crient, eux, à la trahison. Stéphane Azé, qui fut le premier à soulever la question du CETA au Parlement de Wallonie, parle de crash démocratique.
Non, vraiment pas. Les espoirs étaient importants et ce qui est sur la table aujourd'hui n'est absolument pas à la hauteur. Vous avez bien fait de commencer par mettre en exergue le travail parlementaire qui était important, qui a permis d'ouvrir un espace large. Et aujourd'hui, on a rétréci l'horizon à quelques annexes, à quelques déclarations, le plus souvent unilatérales, dont la valeur juridique n'apparaît pas évidente. Et avec en plus, en bout de course, un crash démocratique, puisqu'on demande au Parlement de se prononcer en dehors les 24 heures. Donc on n'a pas cessé de saluer l'importance d'un travail en profondeur au Parlement. Le ministre-président lui-même a dit « je ne poserai plus, je n'accepterai plus d'ultimatum ». Et puis finalement, ils ont convenu ensemble de donner quelques heures seulement au Parlement pour examiner réellement les choses, sans avis juridique. On a reçu une marmelade de textes encore il y a quelques instants qui sont encore en anglais. La traduction suivra sans doute dans le courant de la nuit. Et il faudrait que demain après-midi, le Parlement vote pour la délégation de signature. C'est clairement un problème démocratique alors que les espoirs étaient très très importants.
L'épisode du CETA se termine donc dans une certaine confusion. La question reste, la dynamique wallonne a-t-elle fait évoluer le CETA? A-t-elle fait changer, comme le voulait Paul Magnette, la manière dont l'Europe négocie tous les futurs traités internationaux? La démocratie a-t-elle gagné ou perdu dans cette affaire? Le 28 octobre, devant le Parlement de Wallonie, il n'y a en tout cas plus grand monde pour soutenir les élus. Quelques manifestants sont quand même présents et même quelques Flamands venus supporter Paul Magnette.
Je suis très content qu'on a changé l'arbitrage et que maintenant ça doit être contrôlé par le cours de droit européen et le cours de la justice européen. Ça c'est magnifique. On est fiers que notre petit Magnette est devenu un homme grand dans ce monde.
Le 30 octobre 2016, le CETA est signé en grande pompe entre le Canada, la Commission européenne, au nom des 28 États membres de l'Union.
La première,
l'histoire continue.
Hélène Maquet, Bertrand Haine.
On retisse donc les liens qui nous relient à ce moment CETA en Wallonie en 2016. Ça nous semble déjà tellement loin. On en parle avec vous Arnaud Zaccari, secrétaire général du Centre National de la Coopération au Développement. C'est cette société civile mobilisée à l'époque contre le CETA. Est-ce que tout ça, avec le recul, avec le regard qu'on peut avoir aujourd'hui, ça a servi à quelque chose?
Oui, ça a servi à quelque chose parce que ça a permis de lancer le débat justement sur ces accords de commerce et d'investissement de nouvelle génération. Et ils se multiplient depuis lors. Et donc à chaque négociation, ben, le débat est remis sur la table. C'est-à-dire qu'il y a deux grands sujets qui ont été soulevés par le débat sur le CETA. C'est d'une part les tribunaux d'arbitrage dont on a beaucoup parlé dans le sujet, donc le fait d'avoir, de permettre à des multinationales d'attaquer des États pour expropriation indirecte, et donc dès qu'il y a une législation qui peut être d'intérêt public qui réduit les profits qui étaient escomptés par les investisseurs au moment de la signature du traité, eh bien ils peuvent se sentir lésés et poursuivre devant les tribunaux privés des États. Donc ce sujet a été très présent et avait déjà évolué dans le contexte du CETA, parce que rappelons-nous que grâce à la mobilisation de la société civile, pas seulement en Belgique, mais au niveau européen. Donc il y a une pétition de plus de 3 millions de signatures qui a été déposée au Parlement européen, qui majoritairement a défendu le point de vue que ces tribunaux d'arbitrage n'étaient pas acceptables. Et donc c'est ça qui a fait que dans le CETA et depuis lors dans tous les accords, on n'a plus un tribunal de type ISDS, comme on le dit, donc un tribunal privé où il y a des conflits d'intérêts très importants et il n'y a pas de possibilité d'appel. On a remplacé ça par un ICS, c'est-à-dire un tribunal public avec des juges permanents et puis des arbitres privés, en évitant les conflits d'intérêts et en permettant de faire appel. Et puis, la Belgique, comme on l'a dit, avait posé la question à la Cour européenne de justice.
Oui. Et elle a répondu.
Et elle a répondu, donc elle a dit que l'ICS était conforme au droit européen, mais que par contre l'ISDS n'y était pas. ISDS qui se trouvait dans près de 200 accords bilatéraux d'investissement signés par des États membres de l'Union européenne.
Donc si je veux résumer, cet appel à la Cour de justice, qui était une des victoires de la Wallonie, il a dit, en fait le CETA, il est bon, il est valide au regard du droit européen, mais peut-être pas tous les autres traités, quoi. C'est ça.
Exactement. Et il a ajouté que s'il n'y avait pas eu tous les amendements, toutes les précisions dans le fameux document interprétatif, eh bien, le CETA n'aurait pas été conforme au droit européen. Et c'est d'une brûlante actualité, puisque le traité où les tribunaux d'arbitrage et SDS sont le plus utilisés, c'est le fameux traité sur la charte de l'énergie, qui permet par exemple à des géants des énergies fossiles d'attaquer les Pays-Bas qui décident de sortir du charbon, ou de condamner l'Italie parce qu'ils refusent d'exploiter le pétrole dans la mer Adriatique. Eh bien, plusieurs États membres ont décidé, ont annoncé leur sortie de ce traité, après toute une campagne de nouveau avec les organisations de la société civile. Et il y a quelques jours seulement, la Commission européenne, qui était en faveur de ce traité, a finalement dit qu'il n'y avait pas d'autre solution que de sortir collectivement, donc tous les États membres et l'Union européenne. Et alors, l'autre sujet, c'est la question des normes sociales et environnementales. Donc, il y avait un chapitre, même plusieurs chapitres sur les droits du travail, droits de l'environnement dans le CETA, mais c'était le seul chapitre qui n'était pas rendu contraignant par un mécanisme de résolution des différends. Et là, en juin 2022, la Commission européenne a communiqué une nouvelle position, disant qu'elle l'admettait enfin, puisque à l'époque, dans tous les débats sur le CETA, elle disait que c'était pas possible, mais de lier les chapitres sur les normes sociales et environnementales des nouveaux accords de libre-échange à un mécanisme de plainte et de sanctions. Et le premier accord qui va l'intégrer, c'est le projet d'accord avec la Nouvelle-Zélande. Bon, on n'est pas encore atterri, parce que la Commission européenne dit qu'il faut faire du cas par cas. Donc, par exemple, l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur ne comporte pas de mécanisme de plainte et de sanctions. Mais en tout cas, ces deux sujets qui étaient au cœur du débat sur le CETA ont continué leur chemin. Et aujourd'hui, on voit comment la position de la Commission européenne et de l'Union européenne ont bougé dans le sens des demandes des organisations de la société civile, et donc de la Wallonie, puisque la Wallonie ne faisait finalement que de relayer les demandes des organisations de la société civile.
Quand on entend ces archives, on ne peut pas s'empêcher de penser à quel point il y a une mobilisation de la société, des Wallons, autour d'une question qui est quand même très technique. Ouais. Comment vous l'expliquez d'abord ? Comment ça se fait comme ça que sur un débat aussi technique, il y a une grande mobilisation populaire ? Et après, est-ce que ce serait encore possible ?
Oui. Il y a deux explications, je pense. D'abord, c'est que c'est un travail de 2 ans qui a débarré en 2014, avec tout un travail de vulgarisation, en effet, de questions techniques, mais qui sont quand même faciles à comprendre si on décode.
Donc oui, ça, les termes sont compliqués, mais finalement, voilà, les fonctionnements ne sont pas tellement compliqués.
Exactement. Une fois qu'on explique les mécanismes, c'est assez simple à comprendre. C'est en fait l'équilibre entre les intérêts privés et l'intérêt général. Et puis, le deuxième élément qui est fondamental, pourquoi on présente la Wallonie comme un village d'Astérix ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu 16 heures et 16 heures d'audition d'experts au Parlement wallon qui a permis justement de décoder aussi cet accord de 1600 pages, il faut rappeler, donc ce sont des méga accords, mais c'est parce qu'il y a cette particularité belge où le commerce extérieur est régionalisé. Donc, pour que la Belgique puisse donner son aval à la Commission européenne pour signer l'accord, il faut qu'il y ait une délégation de pouvoir des régions au fédéral. Et donc, contrairement aux autres États membres, où tous les débats ont fini par avoir lieu, mais en aval de la signature, au moment où on va demander au Parlement de ratifier cet accord, en fait, en Belgique, dans les régions, il y a eu ce débat qui a débuté avant tous les autres pays, parce qu'il fallait cette délégation de pouvoir.
Oui, c'est ça qui est un peu unique, c'est que les autres parlements nationaux auraient pu aussi en fait intervenir très tôt dans le débat. Et là, la Wallonie a décidé de le faire, voilà. Alors que d'habitude, elle ratifie à la fin et les débats n'intéressent plus personne
à ce moment-là. L'échéance pour la Belgique et pour la Wallonie en particulier était bien différente des autres pays, puisqu'il fallait pouvoir donner cette délégation de pouvoir pour pouvoir signer en octobre 2016, alors que les autres pays, eux, ont mené tous les débats par la suite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore plus d'une dizaine d'États membres qui n'ont pas ratifié le CETA. Et quand on ne ratifie pas le CETA, c'est parce qu'on voit qu'on n'a pas une majorité, donc on attend les prochaines élections en espérant que la majorité soit favorable. Donc,
c'est un peu un tour de passe-passe démocratique quand même, là. De fait d'attendre
que
le traité soit déjà en vigueur, produise tous ses effets sans qu'il soit voté.
Parce que si un État membre décide de ne pas ratifier, ça veut dire que tout le traité tombe pour tout le monde, aussi bien pour le Canada que pour l'ensemble de l'Union européenne. Donc c'est quand même une grande responsabilité. Et en effet, c'est une entourloupe pour éviter de tuer en fait un traité comme le CETA.
Qu'est-ce qui vous a peut-être le plus marqué, si on revient à ces... En fait, 2 semaines, vous dites, c'est vrai que vous avez déposé les premières questions, vous en tant que société civile, en 2014, mais il y a 2 semaines de négociations où le drame un peu politique se fait, avec Paul Magnette qui fait son discours, etc. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, dans ces négociations où on dit beaucoup que les élus wallons ont parfois hésité, ils ont dit bon, on va signer, et puis ils étaient poussés un peu dans le dos, ils disaient, on ne signait pas, il faut encore négocier ça. Vous qui avez vécu ça des coulisses.
Je dirais il y a deux éléments. Le premier élément, c'est le large front des organisations de la société civile, mais avec plusieurs coordinations, donc de plus ou moins radicales, oui, mais avec une écoute de ces différentes plateformes. Et nous, on coordonnait la plus importante avec toutes les organisations syndicales, toutes les mutualités, le Test Achat, par exemple, la Ligue des droits humains, les ONG de développement et environnemental. Donc là, on a vraiment eu, jusqu'à l'Union des classes moyennes, par exemple, mais aussi des mouvements plus citoyens, plus radicaux, qui faisaient des actions coup de poing. Et puis, l'autre aspect évident, c'est les débouchés politiques. On n'a jamais eu autant d'écoute des parlementaires, du gouvernement et sur le fond. Parce que si les parlementaires connaissaient autant tous ces enjeux, c'est parce qu'ils ont passé des heures à écouter tous ces experts et qu'ils leur expliquaient que l'enjeu n'était pas, comme on l'entendait dans certains pays voisins, le débat classique entre libre-échange et protectionnisme, puisqu'on avait déjà des droits de douane qui étaient inférieurs à 2% en moyenne entre l'Union européenne et le Canada. Donc c'était pas ça l'enjeu. L'enjeu principal, c'était la question du tribunal d'arbitrage. Est-ce qu'on peut permettre à une multinationale d'attaquer un État pour des législations sociales et environnementales et, à contrario, d'avoir des normes sociales et environnementales qui aient des dents, qui soient contraignantes, rendues contraignantes par un mécanisme de plainte et de sanction.
Est-ce que vous diriez que les parlementaires, dans ces deux semaines-là, ont été grisés par le soutien de la population, un peu galvanisés ?
Sans doute, parce qu'il y avait en effet un soutien populaire important. Mais je crois qu'ils se sont rendus compte de l'importance du moment. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on était dans un contexte où, fin des années 90, début des années 2000, il y avait le mouvement altermondialiste qui s'était développé et qui expliquait que les parlementaires, en fait, avaient signé des traités qui avaient un impact très important sur la vie quotidienne des citoyens, sans même lire une seule ligne. Et ils devaient bien admettre que c'était le cas, puisqu'ils avaient signé des traités très important sans le lire, avec souvent des consignes de vote des partis. Et donc c'est ça qui a changé, c'est de se dire attention, ces traités, ils sont très importants et ils sont d'autant plus qu'on parle maintenant de normes d'intérêt public. Donc on va parler de la santé, on va parler du droit du travail, on va parler de l'impact des investissements sur le climat par exemple. Et donc si vous vous battez pour toutes ces causes, vous ne pouvez pas faire comme si ces traités n'existent pas, parce que c'est l'éléphant au milieu de la pièce.
La première, l'histoire continue. Hélène Maquet, Bertrand Haine.
Alors, Arnaud Zaccari, secrétaire général du CNCD 1111, on disait à l'époque qu'il y avait un large front, mais il y avait aussi des gens favorables au CETA, à l'Union Wallonne des Entreprises, on a entendu Vincent Reuter, OMR en particulier, qui était le seul parti wallon qui était vraiment tout à fait pour. Et certains ont pointé dans le mouvement qui s'est passé au niveau de la société, même en Wallonie, une forme de populisme, de repli sur soi protectionniste, comme on l'a peut-être connu avec le Brexit, quelques années plus tôt, deux ans plus tôt, en 2014 en Angleterre, comme on le connaîtra avec l'élection de Trump aussi. Et que le moment CETA, ça a été en Wallonie, ce moment populiste de repli sur soi.
Là, franchement, je comprends pas la critique. Bon, le populisme, il a été bien défini. C'est quand on a des leaders charismatiques qui opposent les intérêts du peuple face aux intérêts des élites corrompues. Donc ici, il n'était pas du tout question de cela. Et d'ailleurs, c'était encore moins une question de protectionnisme. Et il faut se rappeler comment, nous, avec tous ces mouvements très différents, on a été très clair et très pédagogique pour dire attention. Ne vous laissez pas entraîner sur ce terrain, libre-échange, protectionnisme, parce que ça, c'était le débat du XXe siècle, qui était gagné par le libre-échange. Mais aujourd'hui, le débat, et c'est pour ça qu'on parle de traité de nouvelle génération, c'est la question des normes d'intérêt public, des normes sociales, environnementales, sanitaires, dans des accords de commerce et d'investissement. Oui. Donc on a toujours refusé ce débat-là, tout comme d'ailleurs on refusait l'accusation d'anti-américanisme quand on parlait du traité transatlantique. Ce qu'on expliquait, c'était au contraire, on était pro-européen. Et je dois rendre hommage d'ailleurs à Pierre Defresne, qui est mort malheureusement il y a quelques semaines, qui était l'ancien chef de cabinet de Pascal Lamy, commissaire européen au commerce, qui a dirigé la DG Trade à la Commission européenne, qui expliquait justement, attention, on est en train ici de vouloir couler les normes européennes dans un grand marché transatlantique, alors qu'on n'a même pas défini nos propres règles au niveau européen. Donc, entre l'intégration européenne avec des normes d'intérêt public fortes et le traité transatlantique avec les États-Unis, bah, il faut choisir entre les deux. Donc on avait un discours qui était très pro-européen, justement.
Pas un discours de fermeture.
Exactement, et la suite nous a donné raison. Hein, aujourd'hui, il y a le Green Deal européen, donc on a un socle quand même de normes tellement important que la Commission européenne propose un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne. Hein, donc ça veut dire qu'on va protéger tous les secteurs qui vont sortir des énergies fossiles face à une concurrence déloyale de pays tiers qui n'imposeraient pas les mêmes normes. Donc on voit comment ce débat était très important et le reste aujourd'hui.
Mais est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être, moi c'est ce que j'ai appelé le protectionnisme démocratique, c'est ce sentiment de la part des élus wallons de s'opposer à des instances qui le sont moins, comme la Commission européenne, comme les transnationales, les firmes multinationales. Il n'y a pas eu ça?
Bien sûr, puisque la critique était, mais vous avalez toutes les couleuvres depuis des années, et on est dans ce contexte de mondialisation néolibérale, où vous nous dites ne plus avoir de marge d'action pour protéger les citoyens, mais la protection sociale et la protection de l'environnement. Mais alors, ben, prenez vos responsabilités. Et aujourd'hui, on a l'occasion de faire changer justement cet agenda international qui a un impact partout au niveau local. Et donc, faites-le. Et avec des arguments de fond, ben, on a réussi à persuader une large majorité du Parlement, mais une large majorité aussi de la population. Mmh. Et d'ailleurs, on a vu l'intervention du Flamand dans votre sujet.
Oui, ben, le dernier manifestant.
En Flandre, tout le monde nous disait, mais enfin, nous, si ça avait duré encore un peu de temps, ben, le débat, il aurait pris partout en Flandre et partout en Europe. C'est pas pour rien que la Commission européenne a fini par accepter des demandes de la Wallonie pour pouvoir atterrir le plus rapidement possible.
Et ça a été un moment de démocratie aussi, ce moment.
Et de grands débats sur la mondialisation.
Ouais. Ouais. Mais on voit qu'il s'est aussi refermé. Hein. On voit que, notamment avec les dernières affaires en Wallonie, la défiance est revenu au premier plan.
Ça, c'est clair que pour la Wallonie, le bénéfice a été de courte durée.
Allez, merci Arnaud Zachary. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du CNCD 1111.
Le passé pour éclairer le présent, c'est ce que nous faisons chaque semaine dans l'Histoire continue.
Avec l'aide des archives de la Sonuma et à la réalisation Guillaume de Smet.